par le père Marie-Dominique Philippe Arimon, le 27 mai 1995, 8e conférence.
Une des plus belles définitions de la philosophie, c'est celle une âme. faut-il le savoir ? Tandis que un ami peut toujours me dire « Non, c'est pas ça, je vais vous le dire. C'est autre chose. » Soyons liés et faisons œuvre commune. Et puis, dernière expérience, qui d'une certaine manière est au-delà d'expérience, au sens très précis. Au-delà de l'expérience et dans l'expérience. Et le jugement d'existence est trans-expérience, et au-delà d'expérience, mais dans l'expérience. C'est pour ça que c'est pas commode d'entrer en philosophie première. L'expérience, très bien. Surtout l'expérience tangible, l'expérience visuelle, très bien. Mais saisir cet éveil de ceci pour saisir l'être. Est-ce que vous comprenez bien ? Le ceci, c'est n'importe quoi. Là-bas, j'existe. J'existe. Le petit chat de Raïssa existe. Raïssa existe. Au-delà du ceci, il y a l'être. Et ça, seule l'intelligence le saisit. Le ceci, je peux l'expérimenter. Regarder une vache, caresser son museau, pas trop, parce qu'on frira, et puis c'est ça, c'est difficile, et on n'est pas de l'herbe, mais on voit très bien, le ceci c'est n'importe quoi, je peux l'expérimenter, tandis, et non, c'est l'intelligence qui touche, et c'est l'éveil de l'intelligence. C'est une phrase très étonnante que saint Thomas répète 175 fois dans ses écrits. On a fait une thèse à la Grégorienne là-dessus pour compter le nombre de fois où saint Thomas le disait. Alors je vous cite ça parce que ça c'est typique et ça fait comprendre justement combien saint Thomas a saisi ça. Primo cadit in intellectu ens. Je traduis. Qu'est-ce que l'intelligence touche en premier lieu, c'est ce qui est. Ens, traduisons ce qui est. C'est saint Thomas qui le traduit lui-même comme ça. Vous voyez ? Parce que les Heideggeriens modernes le traduisent autrement. Ides, quod est. Vous comprenez, ens, c'est participe du verbe être, esse. Ça, c'est l'infinitif, le participe et le présent. Alors, les Heideggeriens traduisent ça étant, songer, étant, et ceci, ce qui est. Vous comprenez que c'est pas la même chose, étant. Étant, c'est ceci. Qui, dans le monde d'aujourd'hui, reste à équivoque. Et comme saint Thomas lui-même dit « ens, id quod est », on sait ce qui est. Donc c'est « est » au présent. C'est là l'acte. Le présent, c'est l'acte. Hein? Le passé, c'est passé. Le futur, c'est pas encore ça. Et le participe, pas la même acuité. Donc, la métaphysique commence quand l'intelligence exigence propre d'intelligence. C'est très curieux. C'est pour ça qu'il y a beaucoup d'intelligences qui sont sommeillantes. Ils sont dans un état où ils ne s'éveillent pas. C'est pas moi qui le dis, c'est Thomas d'Aquin. Et au-delà de Thomas d'Aquin, c'est Aristote. L'intelligence s'éveille quand elle touche l'être. N'importe quel être. Mon être. Et quand elle touche le « je suis », elle touche l'être le plus intime qu'elle peut atteindre. Et elle l'atteint de l'intérieur. Mais pour l'atteindre pleinement, il faut le ramener à ceci. Première interrogation, alors, on entre en métaphysique, en philosophie première. On interroge qu'est-ce que c'est que ce qui est, en tant qu'il est. Qu'est-ce que c'est ? J'interroge. Et cette interrogation veut saisir ce qu'il y a de premier dans la détermination de ce qui est. Toutes les réalités que je constate, et surtout moi-même, et l'autre, sont très complexes. Une complexité énorme. Et cette complexité de l'homme a donné ce que Aristote appelle les 10 prédicaments. C'est intéressant de se rappeler ça. Les 10 prédicaments, c'est substance. Première, substance, seconde. Substance première, pierre. Substance seconde, homme. Pierre est un homme. Oui, les prédicaments, c'est les attributions. Oui. Un étant, après, quantité, qualité, relation. Toutes les déterminations. Qualité, quantité, relation. Action. Passion, ça c'est le mouvement. Temps, lieu, situs, toutes ces déterminations. Comptez-les, hein, parce qu'il faut toujours les compter. Parce qu'on en oublie toujours. Hein. J'en ai 9. Celle-ci est en dehors, elle n'est pas attribuée, puisque tout est attribué à la substance première, à Pierre. Pierre est homme, Pierre pèse 110 kilos. C'est original au moins. La qualité, Pierre est intelligent, ce qui est encore plus original. Pierre est en relation avec Jacques. Pierre agit sur Jacques. Pierre bâtit sur Jacques, parce qu'ils vivent ensemble. Ils sont à tel moment, à telle époque, à tel lieu, à tel situs. Oui. Donc vous retrouvez tout le temps ça. Dans tout homme, vous trouvez toutes ces déterminations multiples et diverses. Mais quelle est la première ? Ben, la première, c'est évidemment homme attribué à Pierre. Tout dépend de ça. Tout le reste est relatif à ça. Tout est relatif à Pierre. Et il est homme. Et donc, j'ai deux premiers. Deux déterminations premières. Si elles sont deux, au plan de l'être, ce n'est ni l'une ni l'autre qui est première. Parce qu'elles sont relatives. Pierre a quelque chose que homme ne dit pas. Et homme dit quelque chose que Pierre n'explicite pas. Et ils sont assez bas. Il s'identifie. Et donc, il faut nécessairement, si je pose la question sérieusement, qu'est-ce qui est premier dans la réalité la plus parfaite que je connais, moi, Pierre ? Aucune autre réalité, je la connais comme plus parfaite que Pierre, que Jacques, que Jean, que moi. Je vois qu'aucune de ces déterminations dénomination des premières, elles sont toutes relatives à Pierre. Et Pierre lui-même s'identifie à homme. Donc la substance, c'est-à-dire la substance première, la substance seconde, ne peuvent pas être ce qu'il y a de premier dans l'être. Il faut dépasser et saisir la source de ces deux déterminations. Le premier est toujours source. Il est cause de tout le reste, cause selon les déterminations. Et j'appellerai cette source du même nom en disant que c'est l'ousia. Je l'ai dit en grec, comme ça, ça distingue. C'est, et ça a été traduit par substance. C'est une très mauvaise traduction. Ricoeur, quand il a donné en Sorbonne un cours sur la substance, il était choqué. Évidemment, je comprends très bien par la traduction. Ça traduit très mal ousia. Alors, il a dit, il faut dire étance. L'inconvénient étance n'est pas dans le Larousse. C'est pas français. Étance. Vous comprenez ce que c'est qu'étance? J'aime mieux dire le mot grec à ce moment-là pour montrer qu'au moins c'est quelque chose que certaines personnes ont pensé. Tandis qu'étance, il n'y a que Ricoeur qui l'a pensé. Étance. Vous voyez, c'est lié. L'avantage de ousia, c'est que c'est lié à toi. Tuon traduit en latin ens, ce qui est. Il y a un lien, c'est ousia. Alors, parce que substance, c'est la traduction latine, vous comprenez que substance est très mauvais. Parce que substance, c'est sub stare, ce qui se tient en dessous. Alors, c'est très juste, d'une certaine manière, pour la substance, au niveau logique. C'est ce à quoi on attribue tout. Et le mot substance a fait florès. Tout le monde traduit substance. En latin, substantia. Il y en a traduit en français, substance. Et alors, étymologiquement, ça ne va pas. Vous voyez, c'est là on voit très bien que l'étymologie ne dit pas toujours le sens vrai. Alors, on est presque obligé aujourd'hui de reprendre le mot grec. Et puis dire, c'est ce qu'il y a de premier dans l'ordre des déterminations au niveau de l'être. La substance, c'est vraiment la détermination fondamentale et première de tout ce qui est, en tant qu'il est. C'est cette détermination-là, première, radicale. Alors, je la découvre de cette manière-là. Je peux la découvrir autrement, puisque la philosophie du vivant m'a montré qu'en moi, l'âme existait comme source de vie. Alors je me pose la question, est-ce que mon âme est ma substance? Et ça m'aide à comprendre ce que c'est que la substance, vous comprenez bien. Parce que quand même, mon âme, elle est un peu plus proche. C'est une connaissance expérimentale de mon âme, hein, faut pas l'oublier, tandis que je n'ai pas d'expérience de la substance. C'est un au-delà. J'ai l'expérience de Pierre et de homme. Oui, ça j'ai l'expérience. Pierre, je lui ai donné la main. Je sais qu'il existe. Et homme, c'est mon intelligence qui a découvert ça en Pierre. Et donc j'ai l'expérience de homme. C'est quelque chose que je porte en moi, puisque l'homme, d'une manière abstraite, n'existe que dans mon intelligence. Et donc je peux réfléchir dessus. Mais ce qui est source de Pierre et de homme, et qui les unit, puisque quand je dis Pierre et homme, il y a identité. Qu'est-ce qui les unit? C'est leur source commune, c'est la substance. C'est pour ça que je mets le même mot, c'est l'ousia. Et alors, comme c'est au-delà de mon expérience et que on est quand même des êtres qui aiment d'expérimenter, je me pose la question, quelle relation y a-t-il entre mon âme et la substance? Mon âme, je j'en ai l'expérience par ma vie intérieure, mon intériorité. Je peux fermer les yeux et je vis intérieurement. Tout le monde peut me considérer comme mourant. Mais je vis intérieurement. Il y a au plus intime de moi-même cette source de vie que j'appelle l'âme. Et c'est ma substance, puisque ma vie, c'est mon être. Concrètement, hein, vous n'avez pas l'être à côté. Votre vie, c'est votre être. Et donc la substance, c'est, l'âme, c'est votre substance. Et ça vous aide à mieux comprendre. Il ne faut pas rester là. Mais ça nous aide énormément à comprendre. Point de vue pédagogique. Parce que je crois que tout le monde peut saisir qu'on a une âme. Je sais qu'aujourd'hui, ce n'est pas si commode. Je donne toujours cet exemple. Parce que c'est toujours intéressant de voir cela. C'était à Lausanne, avec le professeur de philosophie de l'université, professeur Thévenin, que je connaissais très bien, que j'aimais beaucoup. On se connaissait bien suffisamment pour qu'on puisse s'échanger pas mal de choses. Il m'a dit, tous mes élèves sont disciples de Merleau-Ponty, puisque c'est le dernier, c'est la mode. Et donc, il nie l'existence de l'âme. Et alors, il me posait la question, est-ce qu'on peut encore affirmer aujourd'hui l'existence de l'âme? J'ai eu la même question dans un contexte totalement différent. C'est la première fois que j'allais en Grèce, à Athènes, et je dînais avec des professeurs des facultés de sciences, puisque c'était un voyage entre universités. Et ces professeurs, j'étais en dominicain, donc ils savaient bien qui j'étais, qui étaient tous orthodoxes, m'ont posé la question au milieu du repas, après deux verres de vin. Ils m'ont posé la question, même mon père, pouvons-nous encore parler de l'existence de l'âme? Alors j'ai dit, vous êtes orthodoxe, vous avez la foi. Oui, nous avons la foi. La foi, on nous dit qu'il y a une âme immortelle, oui, mais la science, aujourd'hui, ne touche pas l'âme. Mais la science ne dit pas tout. Et au plan de vue philosophique, on peut affirmer l'âme, puisqu'il y a une intériorité en nous. Nous avons l'expérience de l'intériorité. Et l'intériorité, la matière n'explique pas. Il faut dépasser la matière pour toucher l'intériorité. On a cette expérience de l'âme. Et donc on a l'expérience d'une source de toutes les déterminations en nous. Et ça, c'est l'âme. Et c'est la substance. C'est l'ousia. Bon, ça, c'est la première découverte de ce qui est. C'est très important. C'est la détermination. Ça, le principe propre de ce qui est, selon sa détermination, selon sa forme. Il n'y a pas de principe propre, matériel de l'être. Ça, ce serait très intéressant à bien préciser. Je ne peux pas, mais réfléchissez. Quand j'analyse l'être au plan philosophique, ce qui est en tant qu'il est, je découvre que la matière, la cause matérielle, la matière n'est pas principe d'être, n'est pas source d'être, puisque la matière est source de toutes les indéterminations. Elle est source de corruptibilité. Et que ce qui est premier dans l'être, c'est l'ousia, la substance, la source de toutes les déterminations. L'être est essentiellement déterminé. Il n'est pas essentiellement en puissance. Et c'est peut-être là où vous saisissez le mieux la distinction entre le devenir et l'être. Le devenir implique toujours que deux philosophes, peut-être maintenant un peu plus, mais deux grands philosophes, qui ont dit que la matière constituait l'être. C'est Averroès et Lénine. C'est intéressant. Pour eux, tout être est matériel, puisque la matière fait partie de l'être. Et alors, la grande manière de se sauver du matérialisme, c'est justement, au plan métaphysique, de comprendre que la matière n'est pas un principe propre de ce qui est en tant qu'il est. L'autre interrogation, d'où vient l'être ? D'où vient l'être ? La cause propre, efficiente de l'être. Pas de réponse. L'être est. Il est au-delà du devenir. Il est. D'où vient la corruptibilité ? Oui. D'où vient le mouvement ? Oui. Mais l'être, Parménide dit ça admirablement. C'est la déesse qui le dit. Donc c'est vrai. Il est. L'être est. Vous voyez, nous avons là, j'allais dire, un petit fidéisme qui pousse tout le temps. Et quand on dit quelle est la source de l'être, on dit « Ah mais c'est Dieu !» Non. Autrement, je saisirai Dieu directement et immédiatement dans l'être. Et tout être serait sacré. Il n'y a que la vache sacrée qui a Dieu comme auteur. C'est pour ça qu'elle est sacrée. L'être n'est pas sacré. Comme la vie n'est pas sacrée. Sauf la vie de l'homme. Sauf l'être de l'homme. Oui, là encore, c'est important. Comme purification de regard, que l'être en tant qu'être, il est. Alors la quatrième interrogation, voyez, je reprends les interrogations qu'on avait vues. La quatrième interrogation, en vue de quoi l'être ? La finalité de l'être. Alors là, c'est le grand problème. C'est ce problème-là qui, en scolastique thomiste, a été complètement oublié. Dans n'importe quel manuel scolastique du début du siècle, même encore au milieu de ce siècle, on ne cherche jamais la finalité de l'être. Or, c'est la grande interrogation, c'est l'ultime interrogation. Qu'est-ce qui est parfait dans l'être ? Qu'est-ce qui fait que l'être est parfait ? Qu'est-ce qui fait que l'être possède en lui-même sa propre finalité ? Ça peut pas être en dehors de l'être, ce serait du non-être. Ce serait beau, la finalité serait du non-être. Ce serait l'abîme. Oui. L'être, comme c'est ultime, il a sa propre finalité. Et sa propre finalité, c'est quoi ? C'est sa perfection. Alors, quel est l'être parfait ? Alors là, c'est la grande induction. Très important. Et je pars d'une donnée très simple, mais très très simple. Ce matin, vous vous êtes réveillé. Du moins, j'espère. Parce qu'on peut être encore somnambule. Mais le somnambule ne saisit pas l'être. Or, nous cherchons à le saisir. Ce matin, vous vous êtes réveillé. Vous êtes passé d'un état de celui qui dort à celui qui est éveillé. C'est à partir de là qu'Aristote pose la recherche de la fin de l'être. C'est merveilleux, ça. Tous les jours, vous pouvez faire une expérience métaphysique merveilleuse. Vous vous réveillez. Et si c'est une expérience métaphysique, on se réveille de bonne humeur. Parce que, au fond, c'est la grosse question. Est-ce que je dors pour être éveillé ? Ou est-ce que je suis éveillé pour dormir ? des gens qui sont éveillés pour dormir, parce qu'ils ne pensent qu'une seule chose, vite, vite, vite le soir, pour que je dorme. Vous savez, ça va très loin, parce que Freud reprend les deux états, l'état éveillé et l'état de celui qui dort. Et c'est très curieux comment il les ordonne. Et je crois que c'est là où on touche l'erreur fondamentale de Freud. C'est pour ça que la métaphysique, ça sert à quelque chose. Pour Freud, quand on est éveillé, c'est le point de vue du devoir. Quand on dort, c'est le point de vue de la jouissance. Est-ce que vous mettez le devoir ordonné à la jouissance ou la jouissance ordonnée au devoir? C'est très très curieux. J'aime beaucoup de faire ce parallélisme parce que c'est très éloquent. Hein. Mais je pourrais dire, j'aurais dû faire ça comme classement pour les carrefours. On va dire d'un côté ceux qui disent qu'ils sont éveillés pour dormir. Alors là, Rasmot, au point de vue philosophique. Ou ceux qui dorment. Alors, si vous dormez pour être éveillé, chaque fois que votre réveil sonne, oh, je suis délivré du sommeil. C'est merveilleux. C'est merveilleux. Et on se réveille toujours euphoriquement au point de vue métaphysique. C'est la grande recette. Si vraiment vous comprenez que vous dormez pour être éveillé, donc vous atteignez votre fin en étant éveillé. Et vous êtes heureux. Ben, c'est curieux, ça. Alors, évidemment, je peux dire, je suis très fatigué pour être parfaitement éveillé. J'ai encore besoin d'une ou deux heures de sommeil. Bon, très bien, très bien. On vous laissera ça. Mais c'est pour être éveillé. Alors, à partir de là, vous voyez, c'est très curieux. À partir de là, Aristote prend toute une série d'expériences. Je suis architecte pour construire. J'ai fait des études de médecine pour guérir. Vous voyez la finalité. Vous la retrouvez partout. Vous la retrouvez dans le domaine de l'art. L'artiste, c'est celui qui fait une œuvre. Quelqu'un qui dit « Je suis le plus grand artiste du monde. » J'ai rencontré ça dans ma vie. « Je suis le plus grand artiste du monde. » Je dis « Qu'est-ce que vous faites ?»« Ah, c'est tellement beau que je ne peux pas le faire. » Qu'est-ce que vous dites à ce moment-là? Peut-être pas un artiste, vous rêvez. Et vos rêves sont très beaux. Et c'est très possible que vous avez les plus beaux rêves du monde. Parce qu'on n'en a pas pris la photographie. Alors c'est possible. Vous pouvez, là, vous êtes seul juge. Vous voyez, on est artiste pour réaliser une œuvre, la finalité. On aime pour aimer. En acte. Coopère pour réaliser le bien commun. Je retrouve à tous les niveaux de la philosophie, donc à toutes les dimensions de mon être, la finalité. Et alors à ce moment-là, je vois que seul l'être qui est présent à tous les niveaux unifie tout cela. Et je découvre dans cette induction l'être en acte et l'être en puissance. Métaphysique. tout ce qui est en puissance est ordonné en acte. Or, l'être en puissance, je le découvre à partir de mes limites. Et je vois bien que je suis limité. Je suis limité par l'heure. Je suis limité par le temps. Je suis limité par mes forces. Donc, je suis limité. Cette limite est le signal d'alarme qu'il y a en moi de la puissance. Si j'étais en acte, je ne suis pas limité. L'acte comme tel n'est pas limité. Dès que je découvre un être en acte et limité, je peux dire qu'en lui, il y a une complexité. Il n'est pas simple. Il n'est pas premier. Alors ça, c'est plus difficile à saisir, mais c'est très important. Cette saisie que tout ce qui est en puissance est ordonné à ce qui est en acte, c'est le levier métaphysique qui me permet de passer du visible à l'invisible, qui me permet de passer des êtres complexes, compliqués, à l'être. Cette découverte, elle est tellement importante que, de fait, on l'oublie constamment. Et là, il faut reconnaître, parce que c'est quand même important que Heidegger a reconnu que c'était ce livre d'état de la métaphysique qui était le sommet de la pensée grecque. Et c'est pour ça que chaque année, il faisait un séminaire pour ceux qui savaient le grec, sur le livre d'État d'Aristote. Et les étudiants étudiaient le grec pour suivre ce séminaire. C'est intéressant de voir ça au point de vue historique. La redécouverte de l'être en acte. Saint Thomas l'a découvert. Mais immédiatement après Thomas d'Aquin, avec Don Scott, on a laissé tomber la finalité de l'être. On a dit le principe de finalité est métaphorique. Donc, on ne peut pas s'en servir au point de vue scientifique. Et alors, à partir de là, le levier métaphysique n'était plus la finalité, mais la cause efficiente. Et découvrir Dieu comme cause efficiente. Et c'est impossible. Mais c'est ça qui est le plan difficile. C'est le point de vue très important qu'on ne peut s'élever jusqu'à l'être premier que par la causalité finale. On ne peut pas s'élever jusqu'à Dieu par la substance ou par la cause efficiente. Et on comprend très bien, Aristote lui-même dit la cause finale, c'est la cause des causes. Et saint Thomas a repris ça. C'est vrai, vous écrivez, vous êtes cause efficiente, du grave oui. Vous êtes cause efficiente, nécessairement. Et vous êtes cause efficiente à cause de quoi? C'est parce que vous voulez garder un souvenir du coup. Parce que vous avez peur qu'en l'écoutant seulement, vous oubliez complètement tout. Alors, vous écrivez pour quelque chose. Il y a une finalité. On se lève parce qu'on veut faire autre chose. Finalité. La cause efficiente n'est en exercice qu'à cause d'une fin, cachée ou explicite. Et donc, c'est bien vrai que la cause des causes, c'est la fin. Si la causalité finale, c'est la cause ultime, pour aller jusqu'au bout des passer tout pour savoir s'il y a quelque chose qui existe, je ne peux me servir que de la cause finale. Vous voyez donc, la signature de l'être premier sur la créature ne peut être que du côté de la causalité finale, qui implique la causalité efficiente. C'est évident, il y a un résultat. Mais c'est au-delà du résultat, cette marque de ce qui est le bien qui attire. C'est l'être en tant que parfait qui joue ce rôle de causalité efficiente. L'être en tant que parfait, c'est le bien.
session de théologie naturelle par le Père Marie-Dominique Philippe Arimo, le 27 mai 1995, 9e conférence.
Avant de continuer cette recherche de la causalité finale, voyez, je prends l'image du levier parce que c'est exactement ça. Deuxièmement, alors, au niveau de l'esprit, ici, on est au niveau de la substance qu'on a découvert en philosophie, en métaphysique avant. Au niveau de l'esprit, la vérité. La vérité est acte de ma vie intellectuelle. Capacité de connaître. Mon intelligence est une capacité de connaître, de penser. Si vous aimez mieux. Troisièmement, le bien, l'amour. Le bien et l'amour, capacité d'aimer. Vitales et les puissances vitales. Je ferme les yeux, j'ai la capacité de voir, j'ouvre, je vois. Et puis cinquièmement, le mouvement. Le mouvement est ce qui est mu. Vous savez, alors j'ai pas le temps avec vous de montrer qu'il n'y a pas d'autre modalité d'acte dans ce panorama. Vous voyez, c'est très curieux. C'est au niveau de l'être, la substance, puisque c'est ce qu'on vient de découvrir. L'esprit, la vie, le monde physique. Alors on pourrait se demander s'il y a d'autres modalités d'actes. J'ai fait l'enquête, l'analyse, croyez-le bien, mais il n'y en a pas d'autres. Donc, l'être en acte tout de suite pour moi se manifeste de ces cinq grandes modalités. J'ai donc, puisque l'être en acte et l'être en puissance, je l'exprime comme le principe de finalité dans ce qu'il a de plus pur. Je peux dire qu'il y a cinq manières pour moi de regarder le principe de finalité au niveau de l'exister, au niveau de la recherche de vérité, au niveau de l'amour, au niveau de ma vie, au niveau de mon corps. Je porte en moi ces cinq capacités et ces cinq manières de me finaliser. C'est ça qui est très important à saisir. À partir de là, je peux préciser, alors je vais très vite, quelle est la propriété de l'être en acte. C'est l'unité. L'un est propriété de ce qui est en tant qu'il est. C'est-à-dire là, il y a un très gros problème. Si on voulait le traiter, c'est le problème face au néoplatonisme et à Platon. Pour Platon, l'un est au-dessus de l'être. Pour Aristote, l'un est propriété de l'être. Alors vous comprenez ce que ça veut dire. Pour Platon et tous les néoplatoniciens, l'un est premier. L'être est second. Pour Aristote, dire qu'il suit, puisque le propre de l'acolyte, c'est de suivre et de ne pas être en retard. Parce qu'autrement, il courrait. Et l'acolyte est celui qui suit, celui qui est relatif à. L'un est propriété. C'est pour ça que la propriété. Alors, vous comprenez que là, on touche un problème extrêmement important, puisque c'est la confrontation de ces deux grandes visions philosophiques, le platonisme et le néoplatonisme, et l'aristotélisme. Et en définitive, ça se ramène à ce problème-là. C'est curieux. Toutes les philosophies européennes qui sont nées de la Grèce, toutes se ramènent à ce problème. L'être est-il avant l'un ? L'un est-il avant l'être ? Parce que l'un se distingue du multiple. L'être en acte est un, l'être en puissance est multiple. Puisqu'il est divisible. La substance est une, les accidents sont multiples. Et vous retrouvez ce problème de l'un et du multiple partout. Alors pour Platon, le problème de l'un et du multiple est le problème fondamental de la philosophie. Pour Aristote, le problème de l'un et du multiple est un problème second. C'est en fonction de l'être que je comprends l'un. C'est en fonction de l'être en acte que je comprends l'acte, que je comprends l'un. C'est en fonction de l'être en puissance que je comprends le multiple. Mais il y a une question d'ordre. Vous savez bien, cette phrase si importante de Thomas d'Aquin, le propre du sage, c'est d'ordonner. Qu'est-ce qui est avant l'autre ? On confond tout. Un être intelligent, c'est celui qui distingue tout de suite le nécessaire de l'accidentel. C'est ça, l'être intelligent. Et ceci dans tous les domaines. L'être intelligent ordonne tout. L'être non intelligent confond tout. C'est une confusion avec tous les amalgames possibles. On voit plus rien du tout. Et au fond, c'est vrai, dans tous les domaines qu'on connaît bien, on ordonne. Et on ne fait pas de confusion. Celui qui fait des confusions dans l'ordre pratique, il sent qu'il ose. Il ne peut plus avancer. Celui qui ordonne, il s'élève. Vous voyez, au fond, c'est très important à comprendre qu'au point de vue philosophique, là, on touche l'ordre fondamental, premier. Voyez, Gilson, qui est quand même un très bon historien, Gilson disait que toute la pensée européenne se distinguait de cette manière-là. Être, penser, penser, être. Ceci est premier, ceci est second. Dans la philosophie réaliste, la réalité existante est première et la pensée est seconde. La pensée est relative à l'être. Dans la pensée idéaliste, la pensée est première et l'être est second. Vous pouvez le mettre comme ça. L'être est relatif à la pensée. Je crois qu'il vaut mieux mettre comme ça. La pensée est en première. L'être est en premier. La pensée est seconde. Donc la pensée est relative à l'être. La pensée est première. L'être est second. Donc l'être est relatif à la pensée. On a le réalisme et l'idéalisme. C'est très juste. Mais il y a quelque chose de plus profond que cela. question est première. Qu'est-ce que c'est que l'un? Celui qui n'est pas divisible et qui n'est pas divisé. Vous définissez l'un par la négation. Vous ne pouvez pas définir l'un autrement que par la négation. Et donc la négation est première. Tandis qu'au contraire, si l'être est premier, l'affirmation est première. Oui, c'est... Ce sont des petites clés, ça, qu'on ne peut dire qu'après réflexion longue, mais qui sont très intéressantes, parce que ça explique tout. Ça a un passe-partout philosophique. Il ne faut pas trop le dire, il ne faut pas dire ça dans une dissertation. C'est parce qu'on dirait... Attention. Mais entre nous, on peut se distribuer les passe-partout. Pour passer au-delà de la clôture. Vous voyez, il passe partout. Et c'est ça. Il faut beaucoup réfléchir là-dessus. L'un et l'être. C'est capital. Vous voyez, dans le domaine mathématique, l'un est premier. Le mathématicien ne se pose pas la question de l'être. Pas du tout. Et la question de l'un. Ah oui. L'un. Dans le domaine mathématique. Dans le domaine critique, l'un est premier, puisque l'être est présupposé. Je n'en intéresse pas. Et c'est l'un qui est premier. Mais alors c'est très curieux de se réfléchir là-dessus. Mais, la politique de Platon, qu'est-ce qui est premier? C'est l'un. Aristote dit non, c'est le bien commun. Donc c'est l'être, le bien. Ils avaient deux visions politiques totalement différentes. Il y a ceux qui cherchent l'unité avant tout. Alors, ils simplifient, ils font une taille terrible. Il n'y a plus de bien. Il y en a un, et c'est tyrannique. Le tyran cherche l'unité. Celui qui gouverne pour le bien des autres cherche le bien. Évidemment, dans les élections présidentielles, on ne dit pas cela. Je suis pour l'un, je suis pour le bien. Vous voyez, ce serait vite dit. Évidemment, personne ne comprendrait rien, vous savez rien. Parce qu'au fond, c'est ça, quand vous cherchez bien les systèmes politiques, l'un est pour l'unité. Et alors, il n'est pas vrai. Parce que quand on cherche le bien, on accepte la diversité. Quand on cherche l'un en premier, on n'accepte plus la diversité, on l'exclut. Oh, cet homme-là, il est beaucoup trop original. Qu'est-ce qu'on va faire avec lui? Il n'entre pas dans la méthode. On l'exclut. Si vous cherchez son bien, mais le bien est divers. Il y a une diversité dans les animaux et dans les feuilles. Il y a des tout petits chiens, puis il y a les gros chiens. Alors, c'est encore bien plus dans les intelligences. Bien plus. Alors, il y a des intelligences qui mordent. Puis, on a peur, parce qu'elles mordent. Puis, il y a des intelligences qui sont toutes douceurs. Quelquefois, ça devient près de la mollesse. On ne cherche plus. Ah, faut pas faire du mal à ce petit moustique, surtout pas. Alors, je veux le caresser. Mais vous voulez le caresser, il est envolé. La métaphysique, d'une certaine manière, s'achève avec le problème de l'un du multiple. La philosophie première en tant que science s'achève par le problème de l'un et du multiple en disant que tout ce qui est, dans la mesure où il est en acte, est un. Tout ce qui est, dans la mesure où il est substantiel, est un. Ce qui est en puissance est source de la multiplicité. C'est très important de savoir ça. Et tout ce qui est accidentel est multiple. Ça, c'est les grandes conclusions. Elles sont simples, parce que la philosophie première, elle est simple, mais c'est les grandes conclusions. Un dernier moment qu'on a complètement oublié dans la scolastique thomiste, c'est de voir comment se présente à moi, l'être le plus parfait que je connais, c'est-à-dire moi, le problème du « je suis ». Voyez, saint Thomas n'a pas connu Descartes, ni Aristote. Nous, nous sommes après Descartes, et nous devons répondre à Descartes. Descartes dit « cogito ergo sum ». Nous devons répondre à Occam, premier intelligo. Et pour répondre, il faut que nous essayions de comprendre le problème de la personne humaine au plan métaphysique, au plan philosophique. Je suis. Réfléchir sur le « je suis », pas le « moi » psychologique, mais le « je suis » métaphysique. C'est ma personne. Alors, quelles sont les grandes dimensions de la personne humaine ? Vous voyez, là, il y a un problème extrêmement important et qui montre que la philosophie, se terminant dans la métaphysique, permet de mieux me connaître. Socrate disait « Connais-toi toi-même et les dieux. » Il ne faut pas l'oublier, on l'a laissé tomber. Hein. Mais Socrate dit les deux hein. « Connais-toi toi-même et les dieux. » Il ne faut pas l'oublier. Or, Aristote se dit plus proche de Socrate que Platon. Donc, toute la philosophie, c'est pour se connaître. Pour se connaître dans notre unité, dans notre simplicité et dans notre multiplicité. Connaître notre comment. Comment sommes-nous ? Vous tâtez le pouls. Métaphysiquement. Alors, là encore, hein, je ne peux qu'aller très vite avec vous. Mais on peut rester toute une année avec un cours par semaine sur le problème du « je suis ». Et c'est par là que nous répondrons et que nous pouvons répondre à Descartes. Et c'est important, voyez, parce que la métaphysique prend toute sa signification pour moi dans mon « je suis ». Ce n'est plus ceci qui est, c'est le « je suis ». Alors, qu'est-ce que vous pouvez dire ? C'est le problème de la personne. La personne implique le point de vue de la substance qui subsiste. La personne implique l'autonomie dans l'être. Si je n'avais pas d'autonomie dans l'être, ma substance, je ne serais pas une personne. Il y a des êtres qui sont totalement relatifs à un autre, relatifs au manque de personnalité. On lui pose, qu'est-ce que vous pensez là-dessus ? Ah, je vais demander à mon ami. Mais vous ? Ah, je ne sais pas. Je suis relatif à l'autre. On sait très bien qu'il y a une recherche d'autonomie et c'est le problème de la substance. Dans la substance, je suis indivisible. Et c'est le problème de mon unité. Dans mon unité profonde, la personne implique l'unité. Mais cette unité dans la diversité, la substance, puis, et donc l'âme, et mon âme est spirituelle. Si mon âme est spirituelle, il y a donc une recherche de la vérité. C'est très important de comprendre ça. On n'est pas une vraie personne. C'est-à-dire, on n'est pas une personne parfaite si on ne recherche pas la vérité. Alors, il y a beaucoup de cadavres sur la route. Tous ceux qui ne recherchent pas la vérité sont dépendants des opinions, des médias. Et les médias peuvent le faire avaler des tas de choses. Ils ne savent pas. Ils n'ont pas compris. Car regardez comment ça se passe, les élections. C'est les médias qui font les élections, c'est pas les individus et les personnes. pas là, c'est les médias qui font ça. Mais un peuple qui est comme ça, mais est bon pour la tyrannie. Ça qui est terrible. Il y aura un tyran qui se ferait, personne ne répond. Parce qu'il pense par les autres. Une personne humaine implique une recherche de vérité. C'est ça qui structure la personne humaine. Parce que la personne humaine est esprit. Et parce que la personne humaine est esprit, elle recherche la vérité. La personne humaine a une capacité d'aimer. L'amour d'amitié. L'amour d'amitié. La personne humaine ne se développe parfaitement par la vérité et par l'amour. Et l'amour d'amitié implique un don. Et la réciprocité. Je ne peux vraiment épanouir ce qu'il y a de plus profond dans mon cœur que s'il y a une certaine réciprocité. Autrement, je ne sais jamais très bien. Je ne peux compter sur quelqu'un que parce qu'il m'aime. D'un véritable amour spirituel, pas un amour passionnel. L'amour passionnel est trop passager. L'amour passionnel s'use. L'amour spirituel ne s'use pas. Je ne dis pas qu'il s'engraisse, mais il ne s'use pas. Et il progresse tout le temps. C'est ça qui est infini. Il y a quelque chose d'infini dans l'amour. Il y a quelque chose d'infini dans la recherche de la vérité. L'amour spirituel. La personne humaine implique. Alors ça, c'est intéressant, puisque c'est nécessairement toute la philosophie de l'être en acte. Implique le point de vue de la prudence. C'est le point de vue de l'action. L'agir plus profondément, c'est quelque chose qui commande tout. C'est la sagesse pratique, la prudence. Sagesse pour moi, sagesse pour la famille, si je suis père de famille ou mère de famille, et sagesse politique. Il y a comme trois sagesses. Voyez, c'est vrai, la prudence, c'est la sagesse pratique. Or, on n'est pas une personne humaine parfaite si on n'a pas acquis la prudence. Autrement, on est tout fou. Vous savez, comme le chien qu'on a plongé dans l'eau et qui après s'agite. C'est l'inverse de la prudence. Qu'est-ce qu'il y a encore ? Il y a le point de vue de l'art. L'art fait partie de la personne humaine. Un développement parallèle à la prudence est tout autre que la prudence. L'art qui réalise des œuvres. Et l'œuvre artistique fait partie du patrimoine humain, de la culture, du milieu. La personne humaine est responsable de son milieu. Elle en a profité quand elle était jeune et elle doit voir ce caractère pour les autres. Et elle est capable de transformer un milieu. On sait très bien que le milieu joue énormément. Oui, c'est le milieu, les médias. Et là, l'art a un rôle capital. Et ça fait partie de la personne. Une personne humaine qui prétendrait être une personne sans avoir aucun sens de l'art, au sens très très vaste, il lui manque quelque chose. Pourquoi ? Parce que la personne humaine vit dans un milieu, elle est capable de le changer et de le rendre plus vrai, plus profond. Mais l'art n'est pas moralisateur, il est ce qui construit un milieu. chose belle pour vivre, pour épanouir notre sensibilité. Et puis ensuite, le corps. Le corps fait partie. Le corps fait partie de notre vie, de notre personne humaine. Donc vous voyez, je retrouve ici toutes les dimensions. Supérieur à moi, exactement comme je suis très heureux de me réveiller. fameux réveil, de découvrir qu'il y a un être qui est supérieur à moi, qui est mon créateur. C'est un réveil étonnant. Tous les autres sont somnambules. Mais les somnambules, hein, quand il y a un précipice, ils se font dessus. Parce que quand il n'y a plus la finalité, il y a l'attraction de l'abîme. C'est très curieux, ça. Et l'homme fait vite une culbute. Il y a l'attraction de l'abîme. Il y a le vertige de l'abîme. Et au fond de toute angoisse, il y a ce vertige de l'abîme. C'est très curieux, cette espèce d'attraction de ce qui est totalement indéterminé et qui est comme un infini dans la détermination. Alors s'il n'y a plus l'attraction d'un bien supérieur, il y a immédiatement le vertige. Et je crois que c'est ce qu'on voit maintenant. On voit encore un certain nombre d'hommes qui sont finalisés et les autres sont sur la crête. Il y en a qui dégringolent, il y en a qui hésitent encore. Le vertige, et il y a une coupure très nette, et ça c'est important de se poser la question et de la voir avant de résoudre la question. Il existe un être premier, oui, c'est intéressant de se poser la question. Il y a encore une autre question qu'on doit poser à cause des idéologies athées, qui nient la possibilité pour l'intelligence humaine de découvrir quelque chose qui la dépasse. C'est-à-dire de reconnaître le réalisme. Et en face de Kant, agnostique, dans ce domaine-là, l'homme ne peut pas découvrir vraiment l'existence d'un être supérieur. Alors je dirais tout simplement à ça, c'est que, en réfléchissant sur l'intelligence, je vois que mon intelligence est ordonnée à ce qui est. Et donc, elle est en acte par ce qui est. Tant qu'elle n'a pas découvert l'existence d'un être premier, elle n'est pas en acte vis-à-vis cet être premier. C'est évident. Donc elle ne peut qu'y rêver et rester dans l'imagination ou dans le sentiment. Je ne peux absolument pas limiter les découvertes de mon intelligence. Je peux dire que cette recherche, d'une certaine manière, est terminée. Parce que je ne vois pas comment je pourrais aller plus loin. Ça, je peux très bien dire ça. Mais je n'ai pas le droit de dire qu'il n'y aura pas d'autres sentiers pour découvrir. Parce que mon intelligence s'actue en raison des découvertes. Plus je découvre, plus je suis intelligent en acte. Et donc, je ne peux absolument pas accepter le raisonnement de ceux qui disent « c'est impossible de découvrir l'existence d'être premier puisque je n'ai pas expérience ». Non, mon intelligence est capable de découvrir les principes propres de ce qui est, les principes propres de l'art, les principes propres du facere et d'agire, c'est-à-dire mon activité humaine. La science le montre. Dès qu'il y a une nouvelle découverte, je m'actue. Je découvre quelque chose que je n'aurais pas découvert autrement. Alors, c'est important de saisir ça. C'est même très important de saisir ça. Alors, à partir de là, je me pose la question, existe-t-il un être premier ? Et c'est ce que nous verrons dans les différents cours qui nous restent. Mais vous voyez que ça n'a pas de question. Ça n'a pas, je veux dire, d'intérêt si je ne vois pas comment c'est au terme d'une grande recherche philosophique que la question se pose. Autrement, je répondrais selon mes sentiments. les traditions religieuses. Je répondrai selon ma foi. Mais ce que je veux, c'est chercher une réponse qui soit une réponse de mon intelligence. Si je découvre ce qu'est la personne humaine dans sa complexité, ça je peux, parce que chacun d'entre nous, nous comprenons très bien ça, dès que nous réfléchissons un peu, et nous comprenons l'unité de tout ça. Je peux alors comprendre qu'il y a dans la personne humaine un appel vers l'absolu de la vérité, vers l'absolu de l'amour, vers l'absolu de l'être. Il y a un triple appel. Alors, celui qui est le plus conscient, c'est l'amour. Celui qui est très profond, c'est la vérité. Et celui qui est radical, c'est l'être. Y a-t-il un absolu dans l'ordre de l'être, dans l'ordre de la vérité, dans l'ordre de l'amour? Je ne cherche pas ça au point de vue de la prudence, parce que la prudence, c'est les moyens. Donc il n'y a pas d'absolu. Au point de vue du corps non plus. Le corps est nécessairement un conditionnement. Il est second.